Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, réalisée par Anna Olvec et mise en onde ce matin par Déborah Dagobert. Deuxième temps de notre série consacrée aux défis alimentaires globaux. Après nous être interrogés hier sur les limites des politiques internationales de lutte contre la faim et avant d'aborder demain la question des circuits courts et puis jeudi celle de la nourriture du futur, intéressons-nous ce matin à la situation des paysans. Celles et ceux qui produisent l'alimentation des autres sont en effet souvent les premiers touchés par l'insécurité alimentaire. Les paysans en première ligne, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
De nuit comme de jour, je cours pour arriver à joindre les deux bouts. On est beaucoup d'agriculteurs dans cette situation et il faut qu'on arrive à nourrir notre famille.
Pourquoi peiner pendant plusieurs mois avant d'obtenir les résultats de tant d'efforts? C'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait investir dans l'agriculture. Notre secteur nécessite beaucoup de capitaux. Il faut le développer par les investissements.
Le gros problème, c'est le marketing. Il n'y a pas d'usine ou d'entrepôt pour me permettre de vendre mes produits hors saison. Donc j'ai des revenus très instables.
Du Sénégal au Nigeria, en passant par le Mali, les paysans d'Afrique rencontrent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins et celui de leur famille. Mi-octobre, un rapport d'Amnesty International alertait l'opinion sur la situation en Angola, où des milliers de petits éleveurs risquent de ne pas réussir à se nourrir suffisamment du fait de la sécheresse. Une configuration tristement commune en Afrique subsaharienne, où ceux qui élèvent et cultivent mangent rarement à leur faim. Alors comment les aléas climatiques, les choix politiques, les conflits pèsent-ils sur la faim des paysans? Comment assurer la sécurité alimentaire de ceux qui produisent l'alimentation des autres? Quelles sont les conditions pour une meilleure diversité alimentaire de ces familles des zones rurales et quels sont les progrès accomplis en la matière et les obstacles persistants? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Sylvie Brunel. Bonjour.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur à l'université Paris 4. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur la question. J'en ai deux que j'ai relus un petit peu pour préparer cette émission. Nourrir le monde, vaincre la faim qui était paru chez Larousse. L'Afrique est-elle bien partie? Ça tombe bien, on va beaucoup s'intéresser à l'Afrique ce matin. Et puis plus récemment, plaidoyer pour nos agriculteurs. À nos côtés, depuis Montpellier, Sandrine Dury, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, économiste et économiste de la consommation alimentaire en particulier au CIRAD. Vous êtes avec nous du Plex de Montpellier. Je vais commencer avec vous, Sylvie Brunel. Quand on regarde le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, qui a été publié en juillet dernier, on nous apprend que 820 millions de personnes sont sous-alimentées. Ça, c'était les chiffres pour 2018. Alors, il y a deux manières de voir la chose. Pour les paysans en particulier, on peut considérer d'un côté que habiter près, sur, de la terre, eh bien ça vous protège du risque de sous-alimentation. Et puis on peut se dire au contraire que les personnes qui vivent en zone rurale sont plus vulnérables et que le seul fait de la cultiver ne suffit pas, voire même peut-être les rend plus vulnérables. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce que être paysan, c'est un facteur de risque quand on parle de sous-nutrition, d'insécurité alimentaire, Sylvie Brunel?
Ça dépend où on se trouve. La sécurité alimentaire mondiale, aujourd'hui, elle est globalement réussi, c'est-à-dire qu'on produit assez pour nourrir le monde, mais il y a des poches d'insécurité qui subsistent, particulièrement là où se trouve un grand nombre de paysans pauvres. Ces paysans pauvres, ce qui les caractérise, c'est la pauvreté, c'est la précarité, sont les aléas climatiques, c'est la pénibilité, c'est le fait aussi de ne pas être suffisamment inséré dans des circuits de commercialisation. Et puis là-dessus se greffe quelque chose, c'est que partout dans le monde, y compris en France, les paysans sont souvent méprisés. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas, ou alors on leur donne des leçons. Et finalement, il y a une espèce de continuité dans le monde, malgré le fait que nous avons vaincu la famine. C'est que être agriculteur, être paysan, c'est souvent à la fois être libre sur sa terre, ou en tout cas vouloir être libre, et en même temps vivre un sentiment de ne pas compter suffisamment dans son pays, et c'est particulièrement vrai en Afrique.
À l'échelle globale, être paysan, c'est être malmené. Maintenant, si on regarde l'Afrique en particulier, quand on regarde les chiffres des taux de prévalence par continent, c'est-à-dire de la proportion de personnes touchées, on voit que c'est l'Afrique qui est malheureusement la plus touchée par l'insécurité alimentaire, et de très loin, 52,3% de la population est concernée par cette insécurité alimentaire. Vient ensuite l'Amérique latine, 30%, l'Asie, 22%, et puis ensuite l'Amérique du Nord et l'Europe, 8%. Concernant l'Afrique, est-ce que le fait d'habiter en zone rurale augmente très clairement ces taux de prévalence?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que quand vous regardez les indicateurs sociaux en Afrique, vous vous rendez compte qu'on vit globalement mieux en ville que dans les campagnes, ce qui ne veut pas dire que les habitants des quartiers défavorisés, des bidonvilles, ne consacrent pas une grande part de leurs revenus à se procurer de la nourriture, ce qui d'ailleurs les fait descendre dans la rue quand le prix de la nourriture augmente. Mais globalement, c'est dans les campagnes que les gens souffrent de la faim, avec ce paradoxe, qui sont à la fois producteurs de nourriture et en même temps très mal nourris, avec des taux de mortalité infantile très élevé, une forte prévalence à toutes les maladies, à la fois de la pauvreté et de la tropicalité, et que finalement, le paradoxe, c'est que les villes africaines se nourrissent beaucoup avec les importations. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'ensemble du secteur agricole en Afrique est, comment dire, en mauvais état. Vous avez des entreprises extrêmement performantes, dynamiques, notamment autour des villes, du maraîchage, de l'horticulture, de l'aviculture. Mais il y a dans beaucoup de campagnes un peu excentrées, un peu isolées, des personnes qui souffrent terriblement de la faim parce que à la fois elles vivent dans l'insécurité, l'insécurité politique, économique, et puis elles n'ont pas les moyens d'entrer dans des circuits de commercialisation moderne. C'est ce que disaient vos agriculteurs à qui vous donniez la parole en début d'émission.
Sandrine Durie, vous avez travaillé dans des zones où on a fait de très importants progrès en matière de production agricole. Je pense au Mali, je pense au Burkina Faso. On y produit beaucoup plus qu'avant. On a même des niveaux parfois même excédentaires. Et pourtant, on y recense encore des niveaux de malnutrition très importants, en particulier par exemple chez les enfants, Sylvie Brunel l'évoquait à l'instant. On ne peut pas visiblement directement corréler les niveaux de production et les niveaux d'insécurité alimentaire. Sandrine Durie, alors est-ce que vous confirmez cela? Et du coup, quels sont les autres critères qui rentrent en ligne de compte, Sandrine Durie?
Effectivement, les zones dans lesquelles j'ai travaillé, donc au sud du Mali et à l'ouest du Burkina Faso, sont réputées pour être les greniers en fait de ces pays. Et effectivement, on a peut-être deux fois plus de production céréalière que ce qui est nécessaire pour vivre. Mais d'une certaine façon, c'est un peu la rançon de la réussite, parce qu'on a investi dans des systèmes de production qu'on appelle coton céréalier, où on a aussi des productions qui permettent d'avoir des revenus. Mais ces meilleures productions ont attiré du monde. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus. On a une augmentation de la démographie dans ces régions. Et c'est une des raisons qui font que actuellement, la terre n'est plus aussi disponible qu'elle l'était. Et puis, il y a une autre raison, c'est que on a augmenté le temps de travail des femmes en particulier, et on a aussi épuisé un peu les ressources naturelles qui étaient une source de diversification. Donc on a une concentration sur certains produits, le maïs, et l'alimentation devient très très peu diversifiée, très peu équilibrée.
Justement sur diversification, Sandrine Durie, parce que c'est un élément qui est décisif en matière d'insécurité alimentaire, cette diversité. Visiblement, plus on a accès à des produits différents, évidemment, et moins on est exposé au risque de sous-nutrition et de malnutrition, ça paraît évident. Mais dans les contextes que vous avez étudiés, en particulier au Mali et au Burkina, ça veut dire quoi la diversité alimentaire? Comment on peut diversifier son régime alimentaire?
Alors, il y a plusieurs façons. La façon traditionnelle, c'était de produire des aliments diversifiés, alors dans des systèmes où on mélange des légumineuses de type haricots avec des produits des céréales, et où des on peut aussi cueillir des choses dans les forêts ou bien sur des parcelles dans lesquelles on fait de l'agroforesterie, où on a des arbres, on appelle par exemple le karité, qui est un des arbres assez connus de cette région. On a du néré aussi dans les systèmes de production traditionnels.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on conserve sur ses propres terres cette diversité alimentaire, avec des cultures différentes, avec des espèces d'arbres locaux divers et variés. C'est ça que ça veut dire?
C'est ce qui se passe en partie, mais ce qui est aussi menacé par l'intensification agricole. Et du coup, on est face à un paradoxe où à la fois on a besoin d'intensifier parce que les niveaux de production sont encore très très faibles, il y a encore un gap de production important, mais sans perdre la richesse de cette diversité cultivée. Voilà, donc on est sur ce rasoir, cette espèce de tension de produire plus et garder ce niveau de diversification. Car actuellement, même si les marchés commencent à pénétrer les campagnes, et de façon de plus en plus importante, ils sont insuffisants pour compenser la perte de la biodiversité.
Ce qu'on voit tout de suite, Sylvie Brunel, c'est que de première abord, on pourrait se dire que finalement, il suffit de généraliser l'agriculture vivrière pour régler le problème de l'insécurité alimentaire en Afrique. En réalité, c'est pas si simple que ça, Sylvie Brunel.
Non, c'est pas si simple que ça, parce que même le plus modeste foyer a des besoins monétaires qui ne cessent de se renforcer. Aujourd'hui, la plupart des personnes ont des téléphones portables, ça leur permet d'être informés. De serait-ce que de rester en contact avec la famille qui est dans la ville ou qui est à l'étranger, même si ce sont des cartes prépayées. Donc, il y a des besoins monétaires, il y a des besoins de circuits de commercialisation. Or, souvent, aujourd'hui, quand on augmente la production, on n'augmente pas forcément les débouchés parce que la nourriture ne trouve pas forcément preneur au prix qui rémunérerait le travail, le surcroît de travail investi. Et puis, dans les systèmes anciens, c'était des systèmes à forte réserve foncière. Donc, les densités de population étaient relativement faibles. Les populations pouvaient disposer de vastes terroirs, et c'est ce qu'explique Sandrine Durie. Ils avaient une grande diversité de production, avec des auréoles de fertilité décroissante au fur et à mesure qu'on s'éloignait des villages, de grandes zones qui pouvaient rester très longtemps en jachère. Aujourd'hui, la modernisation rurale augmente les densités, donc augmente la pression foncière. Il y a une fin de terre, FAIM et FIN, c'est-à-dire qu'on commence à manquer de terre, et elle le disait, ça attire aussi de nouvelles personnes. Avant, le principe de la personne sans terre, ça n'existait pas en Afrique, parce que le chef de la terre distribuait les terres. Aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait appeler des pièges malthusiens, c'est-à-dire trop de population par rapport aux ressources, et c'est vrai aussi au niveau de l'élevage, parce que les troupeaux se concentrent autour des points d'eau, se concentrent autour des zones sur lesquelles on a apporté des intrants, et ils érodent la terre, ils abîment la terre, et on a du coup une forte volatilité, une forte insécurité, avec des périodes où la pluie va faire qu'il va y avoir beaucoup à produire, mais alors là les cours vont s'effondrer, et puis des périodes de sécheresse face auxquelles les gens vont partir, ils vont aller vers les villes, avec des migrations pendulaires, c'est-à-dire que les jeunes souvent vont dans les villes pendant la saison sèche et reviennent, travailler dans les campagnes. Alors tout ça est extrêmement complexe, mais il y a quelque chose de certain, c'est que on ne considère pas assez en Afrique subsaharienne le statut de petit producteur familial.
Il y a un problème sur lequel je voudrais vous entendre, la question de l'accaparement des terres. Vous avez dit il y a un problème de terres. J'entends bien, il y a un problème de terres. En même temps, il y a beaucoup de terres en Afrique. Ça fait quoi? Allez, 10, 15, 20 ans qu'on parle beaucoup de l'accaparement des terres, de ce phénomène. Parfois même, on parle de néocolonialisme agraire. On a entendu régulièrement cette expression. Concrètement, aujourd'hui, quelle est la réalité de ce phénomène? Et est-ce qu'on peut dire que ce manque de terres et cet accaparement des terres, c'est-à-dire ces multinationales qui viennent, qui achètent, qui louent des parcelles de terre pour produire des denrées qui seront ensuite exportées, est-ce que ça peut expliquer en partie l'insécurité alimentaire qui touche l'Afrique?
Alors oui, mais c'est comme toujours un peu plus complexe. C'est-à-dire que le problème de la terre en Afrique, c'est qu'au départ, aux indépendances, l'État est devenu propriétaire de la terre et il la concède aux communautés villageoises, aux communautés paysannes qui ont un droit d'usage. Et puis partout où il y a eu des cultures arbustives, on a vu la propriété privée, le cadastrage arriver, puisque l'arbre, ça immobilise la terre. Une plantation, ça immobilise la terre. Donc, du coup, il y a trois régimes qui cohabitent. La terre bien collectif, la terre aux propriétés, aux communautés villageoises et la terre privée. C'est ce qui permet à l'État, aux États, d'allouer de très grandes superficies de terre contre les droits des propriétés, des communautés villageoises, des communautés paysannes, à des investisseurs extérieurs. Alors, ces investisseurs extérieurs, ils ne sont pas forcément négatifs, c'est-à-dire que ils peuvent aussi contractualiser avec les paysans, leur fournir des semences, leur demander de produire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément exportées, mais qui peuvent être simplement destinées aux villes. Donc il y a une modernisation rurale qui est permise par cet investissement. En même temps, c'est le cas,
parce que souvent ce qu'on dit, ce qu'on entend en tout cas, c'est l'idée que ces multinationales produisent des denrées qui sont ensuite exportées.
C'est le but final. Non, vous avez des gens comme Olam, qui est des Singapouriens, vous avez tout un ensemble, la Somdia, vous avez les grands moulins, vous avez tout un ensemble d'entreprises qui travaillent, au contraire, qui essaient de... Et puis le CIRAD, par exemple, a des tas de projets aussi de coopération. C'est-à-dire que vous avez tout un ensemble de un foisonnement d'initiatives dont certaines bénéficient réellement aux agriculteurs parce qu'elles les fait entre elles les font entrer dans un processus où ils peuvent avoir des revenus, ils peuvent être reconnus comme partenaires économiques. Et puis il y a aussi d'autres pays, je pense par exemple à l'Afrique australe, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est où la propriété privée est plus ancienne, où on se retrouve avec des communautés comme en Éthiopie qui sont carrément exclues parce qu'on va allouer à l'Inde ou aux Émirats arabes unis, au Soudan du Sud ou à la Corée. Ou à la Chine, bien sûr, puisque la Chine, des propriétés qui, là, sont extrêmement élevées, qui sont destinées à l'approvisionnement de ces pays. C'est une sécurité alimentaire délocalisée. Et elle se fait, bien sûr, au détriment des producteurs locaux. Mais en même temps, le producteur africain, il a aussi besoin de rentrer dans des filières de commercialisation, des coopératives, des syndicats de producteurs, parce que sinon, il peut pas vendre dans les villes. Et c'est très important. Les citadins sont extrêmement demandeurs de ces produits en provenance de leur campagne.
Donc Sandrine Durie, il ne faut pas forcément pointer du doigt cette question d'accaparement des terres, et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas une bonne formule, Sandrine Durie. Il faut pouvoir produire pour les populations locales, et même il faut pouvoir s'accrocher aux marchés internationaux, Sandrine Durie.
Alors il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'accaparement des terres. Honnêtement, sur les régions que je connais, ce n'est pas le premier problème.
Oui, ça les intéresse. C'est
parce que c'est des régions trop pauvres. Mmh. Et il y a quelques rêves un peu techniques, un peu de centralisation, de rationalisation. Il y en a eu encore une expérience assez récente dans la zone de Bagré au Burkina Faso, mais ça a été un échec complet. C'est-à-dire que...
Pourquoi ?
On ne peut pas organiser, rationaliser, forcer les gens, déplacer les gens pour les faire travailler dans des conditions qui ne sont pas du tout dignes. Du coup, ça ne marche pas. Voilà, les gens refusent à la fin de travailler dans ces conditions-là. Du coup, c'est pas vraiment l'enjeu. S'il y a accaparement actuellement, ce qui se passe en fait au Burkina, au Mali, dans ces zones-là, c'est beaucoup sur les mines. En zone rurale, ça attire beaucoup les jeunes qui peut-être parfois vont trouver plus de revenus dans ce secteur que dans l'agriculture.
Donc, et Sandrine, on peut aussi parler
l'agriculture.
Sandrine, on peut aussi parler des élites urbaines qui accaparent les terres dans les campagnes aussi.
En partie, oui, c'est vrai. Du coup, bon, voilà, ça c'est un sujet. Mais moi, je rebondis aussi sur le sujet des politiques agricoles qui avait été lancé par, qui a été évoqué par Sylvie tout à l'heure. C'est vrai que les marchés des denrées agricoles sont très peu soutenus. Il y a ce qu'on appelle en Afrique souvent le biais urbain, c'est-à-dire qu'on va privilégier d'une certaine façon les consommateurs, les urbains, vis-à-vis des producteurs. On ne va pas encourager, soutenir les prix par des politiques incitatives qu'on en a fait dans la plupart des autres pays du monde.
Mais comment le comprendre? Parce que c'est l'intérêt aussi des États que de soutenir leurs agriculteurs, en tout cas lorsqu'ils vont...
Non, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, importer pour les États, ça leur apporte des taxes à l'importation. D'abord, ils sont certains d'avoir des marchés. Il y a énormément, vous savez, il y a très peu de pays qui exportent beaucoup de nourriture. Donc, ils ont des marchés qui sont avec des blés, des maïs, du riz qui arrivent souvent à des prix compétitifs. Et en plus, c'est intéressant pour eux parce qu'en fait, ils perçoivent des financements, des taxes à l'importation, alors qu'ils ont beaucoup de mal à réunir sur le plan interne la fiscalité. Vous savez, les gens, c'est très difficile de faire payer l'interne. Alors, ils ont introduit la TVA, ils ont essayé de faire tout un ensemble de choses pour avoir des revenus, mais c'est quand même les importations qui apportent beaucoup de revenus.
Vous confirmez, Sandrine Durie, dans le cas, par exemple, du Burkina, c'est le cas, c'est ce qu'on voit? On ne soutient pas forcément autant qu'on pourrait l'imaginer pour cette raison-là?
Absolument, absolument. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, les programmes, donc... d'aide alimentaire, parce que dans les pays du Sahel, il y a des systèmes quand même de prévention des risques alimentaires qui sont assez sophistiqués. Et ces programmes essayent maintenant de privilégier la production locale. Donc par exemple, les zones de forte production dans lesquelles j'ai travaillé, elles sont aussi utilisées, achetées par des marchés institutionnels, des marchés d'aide, pour les zones qui sont plus au nord, qui sont vraiment en très très fort risque d'insécurité alimentaire.
Alors c'est le
donc
cas
l'État intervient là-dessus.
Alors c'est le cas par exemple du côté du Niger, où on a mis en place un programme qu'on a baptisé 3N pour les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est un programme qui a été lancé par le président Mahamadou Issoufou. Je propose d'écouter un extrait de la vidéo qu'on peut voir sur le site de la présidence de ce fameux projet.
Je travaille dans ce jardin depuis 9 ans. Avant, je partais en exode vers les pays côtiers et les choses ne se passaient pas très bien. Raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir dans la terre pour trouver une alternative. Chose réussie, 2 ans après, j'arrivais à me prendre en charge et à satisfaire tous mes besoins. Voilà que cette initiative 3N est arrivée. J'ai alors bénéficié d'un tracteur. Aujourd'hui, les revenus dont je bénéficie ont été multipliés par 5 par rapport à ceux dont je disposais avant. Aujourd'hui, je lance un appel à mes frères nigériens pour qu'ils se servent de mon expérience.
Alors évidemment, Sylvie Brunel, cet agriculteur, il trouve que c'est formidable ce programme. Vous allez nous le présenter, Sylvie Brunel, et puis peut-être on va essayer de mesurer ensemble les effets. Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a multiplié sa production par 5, mais il y a aussi peut-être un tout petit peu de communication politique derrière tout ça, Sylvie Brunel.
En fait, je pense qu'il faudrait revenir à Sandrine aussi, puisqu'elle disait qu'elle travaillait précisément dans les pays qui étaient dans les régions qui étaient celles de plus forte production agricole. Or, ce qu'on constate au Niger, c'est que finalement, c'est vrai qu'on peut relancer beaucoup la production, notamment au sud, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'au Niger, une grande partie du territoire ne peut être occupée que par de l'élevage. Hein. On est dans des régions qui sont où les précipitations sont insuffisantes pour avoir des cultures pluviales sur à peu près les 3/4 du territoire. Donc c'est au sud que l'on peut lancer des programmes de relance agricole. On se rend compte qu'il y a un biais, c'est que quand les prix de la nourriture augmentent et que la demande s'accroît, les crises alimentaires que nous avons observées montrent que les commerçants ont tendance à retenir la production le temps que les prix montent plus, quitte à vendre aussi au Nigeria. Mmh. Et donc, c'est compliqué parce que ce sont des zones où on devrait se nourrir, mais les circuits de commercialisation ne fonctionnent pas suffisamment de façon à ce que l'agriculteur trouve, comment dire, la rémunération juste du surcroît d'efforts et d'investissements qu'il a fait pour produire plus. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que vous agissez en amont, c'est-à-dire pour relancer la production agricole, que vous arrivez à régler le problème en aval. Par ailleurs, le vertige de la machine, etc., c'est quand même assez complexe parce que c'est vrai que il y a en Afrique beaucoup de CUMA, coopératives d'utilisation des matériels agricoles, comme on l'a vu en France, pour faire permettre aux agriculteurs d'accéder à la modernité des semences, des intrants, des machines, mais ne les utilisent pas toujours comme on pense qu'ils les utiliseraient. C'est-à-dire que souvent, ils les utilisent pour accroître leur contrôle foncier. Ils vont essayer d'aller traiter plus de terre, défricher plus de terre pour montrer leur présence. Et la rationalité de l'agriculteur, ce n'est pas la maximisation des rendements, c'est la minimisation des risques. C'est-à-dire essayer d'être présent dans tout un tas d'endroits, avoir tout un ensemble de plantes pour, si les choses deviennent plus difficiles, pouvoir faire le gros dos. Et c'est pas ça qui nourrit les villes.
Sandrine Durie.
Oui. Moi, ce que ça m'évoque, cette interview, c'est qu'effectivement, la personne qu'on entend, elle va produire certainement plus et ça va certainement être utile à quelqu'un dans la sous-région. Mais pour sa propre famille, c'est pas sûr que ça va améliorer leur statut d'insécurité alimentaire. Parce que c'est ce qu'on a observé en fait dans de nombreuses familles. Ceux qui produisent plus, en fait, c'est pas forcément pour l'alimentation. C'est les chefs de famille, en fait, ils vont donner une partie aux femmes, à leur épouse. Mais ils vont ensuite investir, ils vont peut-être acheter de nouveaux matériaux, une mobylette, investir dans l'agriculture, mais ça va pas être destiné forcément à l'alimentation.
Parce qu'en fait, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que quand c'est les femmes
qui sont assez séparées.
Ouais. Voilà, il faut parler. Je pense qu'il faut parler.
On va laisser poursuivre Sandrine Durie. Je passe la parole à Sandrine Durie.
Oui, quand on a remarqué qu'à revenu égal, une dame va plus investir dans la diversification de l'alimentation. Elle va prendre plus soin des enfants. Alors que les chefs de famille, c'est pas leur job, c'est pas leur fonction. C'est pas eux, ils vont être responsables de la santé, ils vont être responsables de l'investissement, mais pas de la diversité alimentaire, de la qualité de l'alimentation qui est absolument indispensable pour la bonne croissance et une vie équilibrée.
Mais les femmes consacrent davantage de moyens à la diversification alimentaire. D'ailleurs, Sylvie Brunel, en fait, quand on élargit un petit peu à la question de l'aide au développement en général, on voit qu'en général, les femmes sont de meilleurs alliés que les hommes.
C'est-à-dire que les femmes en Afrique sont souvent celles qui produisent les cultures vivrières, c'est celles sur lesquelles repose l'alimentation de la famille. Et il y a un rapport d'Oxfam que je cite, je vous l'ai montré dans cette lettre sur le maïs qui s'appelle les nouveaux Mayas. En Afrique, le visage de la malnutrition est le plus souvent féminin. Les agricultrices assument plus de la moitié de la production alimentaire, mais ont peu accès aux ressources. C'est Oxfam qui dit ça. Financement, intrants et formation agricole leur sont beaucoup moins accessibles qu'aux hommes. Seuls 13% d'entre elles possèdent leurs propres terres. Donc ça, c'est aussi un problème, parce que si vous n'êtes pas sécurisé sur le plan foncier, vous ne pouvez pas investir sur votre terre. Et lorsque les conditions de la famille se dégradent, eh bien, ce sont les premières à se sacrifier. Donc elles mangent en dernier, elles mangent moins bien. Et on voit avoir une double malnutrition, celle des femmes et celle de leurs enfants, avec des cas de kwashiorkor. À cela s'ajoute aussi le problème de la qualité de la nourriture, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais souvent cette nourriture est contaminée par exemple des mycotoxines qui vont provoquer des famines. Le maïs, par exemple, en Afrique de l'Est, qui est la première alimentation, hein, c'est vraiment essentiel, on va avoir des problèmes d'aflatoxine, c'est le plus puissant cancérogène naturel, et on va avoir des enfants qui vont souffrir de ces crises qui sont liées.
Mais d'où vient la contamination ? C'est un problème de semences, un problème de stockage ?
Non, c'est un problème global, que les récoltes ne sont pas protégées pendant qu'elles poussent et pendant qu'elles sont stockées. Donc elles sont attaquées par tout un ensemble de bioagresseurs, ce qui fait que d'abord les rendements sont souvent faibles. On est en dessous d'une tonne par hectare, ce qui veut dire que vous travaillez énormément et vous récoltez peu en termes de céréales. Et qu'en plus, ces céréales sont elles-mêmes insalubre sur le plan sanitaire, parce que ce qu'on appelle des petits champignons, des moisissures, les contaminent. On associe avec l'arachide. Les tourteaux d'arachide peuvent contenir ce qu'on appelle l'aflatoxine. Donc, on oublie dans toute cette dimension de l'alimentation en Afrique le fait qu'il faut de la quantité, il faut de la qualité et il faut des prix. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut plusieurs paix. Il faut la paix, parce que partout où on est en guerre, la nourriture n'est pas au rendez-vous. Il faut des bonnes plantes. Alors, une variété de plantes, hein, Sandrine l'a dit tout à l'heure, des plantes et de la polyculture. Il faut aussi des intrants, c'est-à-dire pouvoir booster et protéger la production, donc de la protection. Mais il faut aussi protéger l'agriculteur contre les aléas du marché international, parce que sinon, il peut pas vendre s'il n'a pas une garantie de prix. Donc, ça veut dire qu'il faut des prix, il faut qu'ils soient bien rémunérés, il faut de bonnes politiques et il faut de la propriété.
Les fameux 5 P que vous évoquez dans l'Afrique. L'Afrique est-elle si bien
exactement,
partie?
Exactement.
Il y a même parfois un 6e P. Hein,
oui, il y a plein de P, mais ceux-là, pour l'Afrique, sont essentiels.
Sandrine Durie, je vais vous poser une question éminemment difficile que je poserai également à Sylvie Brunel.
Bon, c'est bien que vous commenciez, Sandrine, alors.
parce que j'entends Sylvie Brunel nous parler d'intrants, de rendements, de semences. D'ici quoi, les 2050, nous disent les projections, l'Afrique comptera 2,5 milliards de personnes. Donc il faudra nourrir 2,5 milliards de personnes. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique? Est-ce qu'il va falloir faire comme ce que nous avons fait, nous, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Nous avions aussi, nous, en Europe, des problèmes d'insécurité alimentaire, et donc on a fait notre révolution, et donc on est allé vers une agriculture intensive faite d'intrants, faite de meilleurs rendements, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit un peu ce que ça donne, et on critique nos agriculteurs à qui on a demandé précisément de produire en masse grâce à cette révolution technique. Est-ce que l'Afrique va devoir faire pareil, ou est-ce qu'on peut sauter cette étape-là et arriver directement à l'agroécologie qui permettrait à la fois de nourrir ces 2,5 milliards de bouches, mais sans faire les dégâts environnementaux qu'on connaît?
Oui, vous avez déjà donné la réponse en posant la question.
Non, je pose juste la question. Est-ce qu'on peut sauter ou pas?
Enfin, moi, j'ai la conviction profonde que c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la plupart des continents ont fait leur révolution verte. Donc, dans les années 70, on a mis au point des variétés très performantes qui répondent bien aux engrais. On a fait des politiques agricoles très intensives liées au contexte politique macroéconomique. Et là, l'Afrique n'a pas vraiment connu cette révolution verte. Mais il y a quand même des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de la productivité de la terre. Il y a eu une augmentation au cours des 50 dernières années de la productivité du travail. C'est-à-dire que pour une unité de travail, on a en moyenne 1,6 unités de production en plus qu'il y a 50 ans. C'est-à-dire que souvent, c'est pas très bien rapporté. Les gens pensent qu'en Afrique, c'est l'Afrique éternelle, que les choses restent telles qu'elles sont. C'est pas le cas. Et là, qu'on observe actuellement, c'est qu'on arrive un petit peu à la fin de la terre disponible, bon marché, gratuite. On arrive un peu aux limites des ressources de l'Afrique, qui est un continent absolument immense. en termes de terres. Mais on n'arrive pas du tout aux limites en termes de population. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ce sont des ressources, c'est des gens qui vont travailler, qui vont imaginer des choses. Et nous, au CIRAD en particulier, on travaille avec eux au quotidien pour évidemment trouver des systèmes agricoles qui permettent de produire plus sans détruire l'environnement. Et donc c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est basé sur une articulation entre production agricole et élevage. Tout à l'heure, Sylvie l'a évoqué. L'élevage, c'est vraiment une ressource absolument indispensable, à la fois en termes alimentaires. On a besoin de manger de la viande et des produits laitiers. En Afrique, la consommation est vraiment largement en dessous des besoins. Donc, il faut soutenir l'élevage. Et l'élevage, c'est aussi une source de fumure organique. C'est et ça fait partie aussi de la culture, en fait, au sens culturel.
Donc vous avez la conviction vous avez la conviction que c'est possible. Sylvie Brunel, quant à vous?
Mais bien sûr que c'est possible.
Enfin, bien sûr, non, il n'y a pas de certitude.
D'être...
Je pense qu'il n'y a pas de certitude. Je vais passer la parole à Sylvie Brunel sur cette question-là en particulier.
Moi, je m'inscris dans la même ligne que Sandrine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à la faim, à la pauvreté en Afrique. Effectivement, la production agricole a considérablement augmenté depuis les années 60. Simplement, la population a augmenté plus vite et elle s'est urbanisée, même si ça reste encore un continent extrêmement rural. Donc le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes dans les campagnes, que les villes se nourrissent globalement. Je vous le redis, il y a vraiment beaucoup d'entreprises très très dynamiques autour des villes. Maraîchage, petit élevage, aviculture, il y a vraiment beaucoup de demandes. Mais les besoins sont colossaux. Donc il va falloir une double modernisation. Une modernisation qui va faire que tous les systèmes agricoles doivent être convoqués. Vous savez que l'Afrique, c'est un continent où l'agriculture urbaine, par exemple, est extrêmement présente. On valorise partout les bas-fonds, etc. Bon, avec parfois des problèmes de normes sanitaires, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Vous avez donc ces auréoles autour des villes qui sont très très dynamiques, mais il y a toute cette pression foncière qui fait que quand un jeune veut s'installer, eh bien il va avoir, comme d'ailleurs chez nous en France, il va avoir des difficultés à avoir accès au foncier. Et puis on a le problème des campagnes, qui sont les campagnes périphériques, qui sont les campagnes difficiles, qui ont du mal à se brancher sur l'économie urbaine de façon moderne, donc elles sont un peu à la merci des intermédiaires, des prix qu'on veut bien leur faire. Donc il faut des coopératives, il faut de la modernisation, il faut aussi bien sûr des plantes, parce que on a encore, et Sandrine l'a dit, la révolution verte en Afrique, elle n'a pas encore été faite. Nous, on travaille dans le monde sur des maïs, des blés, des riz qui ont été améliorés. Eux, ils ont des problèmes, il y a des maladies du manioc, il y a des maladies de la papaye, il y a des maladies de plantes tropicales sur lesquelles il faut agir. Donc, il y a
besoin. Donc, il faut des OGM. En Afrique.
Oh ben j'avais même pas pensé, mais oui, bien sûr.
Je vous pose la question parce que c'est d'autant, elle est d'autant plus prégnante quand on est dans un moment où le dérèglement climatique évidemment pose des soucis colossaux et il faut s'adapter à ça.
Oui, mais vous savez, le terme OGM, ça fait office de repoussoir. En fait, le génie génétique aujourd'hui est présent dans toutes les institutions de recherche parce que on a des techniques maintenant de ciseaux moléculaires qui s'appellent les CRISPR-Cas9 où on peut très rapidement sélectionner des gènes d'expression qui permettent, par exemple, d'être plus résistant à la sécheresse, de pousser plus rapidement. Le gros problème aujourd'hui de l'agriculteur africain, c'est l'aléa des précipitations. C'est-à-dire qu'il va semer et puis les pluies vont s'arrêter. Alors, il va être en permanence en train de se poser la question du calcul. Est-ce que j'utilise mes semences ou est-ce que je vais les perdre? Quelle dose d'intrants je mets, d'engrais par exemple je mets ou de protection je mets? Où est-ce que ça va être perdu?
Donc vous pensez que c'est pas...
Ah mais moi je suis convaincue qu'on peut pas, dire qu'on va se passer du génie génétique. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs les Africains eux-mêmes le disent aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont des systèmes de prévention des sécheresses, hein, les early warning systems qui marchent très bien pour justement constituer des stocks, pouvoir lâcher sur les marchés des stocks de sécurité quand les prix s'élèvent. Ils sont par exemple dans le Sahel extrêmement mobilisés là-dessus. Mais ils se heurtent au fait que pour l'instant, la production est trop aléatoire, d'insuffisante qualité, etc. Donc il faut agir là-dessus.
Sandrine Durie, votre regard sur cette question des OGM, quelle place auront-ils demain dans l'agriculture africaine pour nourrir le continent? Sachant que on peut penser que c'est une bonne chose des OGM, mais il y a aussi le revers de la médaille, si je puis dire, c'est que vous créez aussi une forme de dépendance vis-à-vis des semenciers qui vous fournissent précisément les dites semences. Donc vous gagnez peut-être en rendement, mais vous perdez en indépendance et en souveraineté alimentaire, Sandrine Durie.
C'est le risque principal des OGM actuellement, c'est la dépendance. Mais au-delà de ça, il y a des OGM et OGM, moi je suis complètement raccord avec Sylvie, il y a des choses qui sont issues de l'amélioration, par exemple, variétale moderne, où il y a effectivement de la manipulation génétique. Mais la question, c'est pour qui on fait des OGM? Par exemple, sur le coton au Burkina, il y a une expérience d'OGM. On pouvait dire que ce coton était quand même assez désirable parce que il permettait de réduire les traitements phytosanitaires qui sont quand même très toxiques pour les personnes qui font ça encore à dos d'homme, hein, qui traitent avec des pulvérisateurs. Donc, au lieu de faire 10 traitements, je crois, ils en faisaient seulement 3. C'était difficile de s'opposer aux OGM par principe, surtout qu'on était dans le même système de relations de production avec les compagnies cotonnières et entre les compagnies cotonnières et les paysans. Bon, voilà, c'était une expérience qui pouvait être intéressante pour d'un point de vue environnemental aussi, à la fois pour le bien-être des personnes et pour l'environnement. Mais sauf que ces OGM, la qualité du coton était pas très bonne. Les fibres étaient trop courtes par rapport au coton traditionnel. Donc on est revenu au coton traditionnel. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Si les OGM sont bénéfiques aux petits producteurs familiaux, s'ils sont bénéfiques à l'environnement, pourquoi pas?
Oui, parce qu'il faut quand même penser, faut penser aux bioagresseurs. En fait, il faut que vous pensiez que on est dans un milieu tropical, donc vous avez une quantité de pestes hein, qui s'attaquent aux récoltes, des chenilles, des insectes, des oiseaux, des champignons, des moisissures, etc. Et l'agriculteur, bah, moi au Bénin, quand j'étais au Bénin, l'agriculteur il disait mais donnez-nous des cides. Alors vous savez, cides pour lui c'était insecticides, fongicides, etc. Parce que sinon, eh bien ils envoyaient les enfants dans les champs pour ramasser, pour essayer de faire fuir les animaux, etc. Alors bien sûr, nous on a face à ça une position tranchée, on veut plus en entendre parler.
Mais parce qu'on a vu les conséquences.
Oui, mais on a vu les conséquences, mais on a oublié aussi l'ampleur des contaminations bactériologiques. Donc, il faut inventer de nouveaux systèmes. Il y a une troisième révolution agricole qui est en œuvre. Le CIRAD, par exemple, il travaille. L'INRA, il travaille. En Afrique, il y a énormément d'instituts de recherche. Et comment on va faire pour essayer d'intensifier la production, de faire que les modèles ne soient pas trop homogènes avec l'agroécologie, l'agroforesterie, l'association agriculture-élevage, tout en permettant de surmonter ces écueils qui sont des écueils considérables et qui pourrissent la vie du paysan au quotidien. Faut quand même penser à ça. Le paysan, faut lui simplifier le travail aussi. Sandrine a parlé du pulvérisateur qu'on a sur le dos. Quand il fait 40 degrés, ils ont pas forcément de masque, etc. Chez nous, quand nos agriculteurs mettent des combinaisons de protection, on les accuse de se transformer en scaphandriers. Mais c'est normal, ils ont reçu la formation. Et puis, quand on utilise des produits de traitement, c'est bien pour combattre des animaux qui sont, ou des champignons qui sont indésirables, herbes.
Sylvie Brunel, on va bientôt accueillir une nouvelle invitée, Delphine Thivet, pour parler de Via Campesina. Mais j'ai encore une question, parce que tout ça est formidable, mais il y a un problème majeur qui est en fait le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Bien sûr.
Au début des années 2000, les pays d'Afrique s'étaient réunis à Maputo, je crois, au Mozambique, pour définir une sorte de feuille de route sur les investissements à faire dans les prochaines années. Je crois qu'on avait dit qu'il faut dépenser au moins 10% de notre budget à l'agriculture. Est-ce qu'on a tenu parole?
Alors non, mais certains pays l'ont fait. Et les pays qui l'ont fait sont des pays où justement la faim a considérablement reculé. La situation de l'agriculteur s'est améliorée. Quand vous regardez les courbes de malnutrition au Rwanda, au Ghana, en Éthiopie, vous vous rendez compte qu'il y a des progrès réels qui ont été faits. Il faut bien dire que
les investissements payent.
Mais bien sûr, investir dans l'agriculture, mais dans l'agriculture paysanne, dans l'agriculture familiale, bien comprendre qu'il n'y a pas de fatalité, que cette Afrique, elle pourrait demain devenir un grenier. Regardez Madagascar, c'est un pays où on souffre de la faim, qui pourrait nourrir toute l'Afrique australe. Hein, ne jamais faire de verdict. Savoir que l'intelligence, le respect de l'agriculteur, l'investissement financier, la création de bonnes filières, eh bien, ça marche.
Sandrine Durie, sur les investissements.
Absolument.
Ça paye.
Et bien sûr, c'était un peu mon message de tout à l'heure. C'est-à-dire que si on fait des politiques agricoles de soutien aux producteurs, on y arrive. Et aussi des politiques, tout à l'heure on a évoqué les OGM, mais on n'a pas du tout recensé l'ensemble des variétés existantes et des potentialités des systèmes existants. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement, au CIRAD en particulier. Mais de aussi améliorer les performances des systèmes, ils sont méconnus en fait. Et ils sont méconnus par la recherche et par le développement. Il n'y a pas une recette unique, il y a des potentialités dans différents endroits qui sont à soutenir et c'est les politiques qui vont permettre de faire ça.
On est avec vous Sandrine Durie en duplex de Montpellier, avec Sylvie Brunel ici à Paris en plateau. Si on constate que les paysans sont les premières victimes de la faim, ils sont aussi beaucoup à considérer qu'en réalité ils sont les seuls à pouvoir agir pour résoudre cette question de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire. C'est en tout cas la conviction par exemple de Via Campesina, qui est un mouvement international qui fédère des millions de petits paysans dans le monde. On va en parler dans un instant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Vimos do sul, do norte, do leste e do oeste. Somos mais de 200 milhões de camponesas e camponeses, pastores, pescadores, povos originários e comunidades rurais.
Bergers, pêcheurs, peuples originaires et des communautés rurales.
Ce qui me paraît super important, c'est de voir qu'on est loin d'être tout seul, parce qu'en France, on n'est pas très nombreux comme paysans. Donc, des fois, on a l'impression de ne pas beaucoup peser. Mais quand on sait qu'on fait partie de la Via Campesina, qui représente 200 millions de paysans dans le monde, on est vraiment à une autre échelle. Et quand on se rencontre, on sent qu'il y a une force.
Viva Via Campesina !
Voilà, on va parler de Via Campesina. On entendait là une délégation donc de Via Campesina lors de la COP21. Alors, quelles sont les ambitions de ce mouvement ? Qu'est-ce qu'il peut apporter face à cet éternel problème de l'alimentation ? Bonjour Delphine Thivet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Bordeaux. Vous avez beaucoup travaillé sur la Via Campesina, qui a été votre objet de thèse. Vous avez fait des analyses comparées entre différents mouvements paysans en France, au Brésil, en Inde, pour comprendre comment s'opère cette internationalisation de la lutte paysanne. D'abord, en quelques mots, Delphine Thivet, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né ce mouvement Via Campesina et son contexte d'émergence, Delphine Thivet?
Alors la Via Campesina, on peut dire que c'est une internationale paysanne hein, qui officiellement est née à Mons en Belgique en 1993, mais c'est la convergence de multiples luttes nationales et locales à partir des années 80, de fractions des mondes ruraux qui ont été finalement directement impactées par la modernisation agricole et qui se sont retrouvées marginalisées par cette industrialisation de l'agriculture. Et à la faveur notamment des accords du GATT, hein, de l'inclusion en 1986 dans le cycle de l'Uruguay, de l'agriculture au sein des négociations commerciales multilatérales, ont commencé à se rencontrer, à discuter entre eux en marge de ces conférences internationales et à réfléchir ensemble sur l'idée hein, de s'unir, d'être solidaire et de sortir d'un modèle d'opposition et de concurrence entre les différentes agricultures du monde pour s'affirmer.
Ça a commencé dans les marges, Delphine Thivet, mais rapidement, c'est sorti des marges en réalité. Au début des années 2000, Via Campesina s'est impliqué dans l'arène internationale, notamment dans l'arène onusienne. Comment ça s'est illustré et avec quels résultats?
Alors, c'est aussi le fruit d'un travail politique de plusieurs dizaines d'années. Effectivement, c'est surtout à la faveur de la crise alimentaire de 2008 que Via Campesina a réussi, alors qu'elle était toujours plutôt au seuil des organisations internationales, à être reconnue comme justement légitime pour parler et pour traiter des problèmes de sécurité alimentaire au sein notamment de la FAO, en intégrant le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Et effectivement, aussi en faisant reconnaître une déclaration des droits des paysans et des paysannes à l'ONU, là récemment, en décembre 2018.
La Via Campesina, Delphine Thivet, depuis sa création, c'est évidemment un mouvement qui est profondément anticapitaliste. Quand on regarde un peu les adversaires de Via Campesina, on trouve les FMI, on trouve la Banque mondiale, on trouve l'OMC, etc., etc. Mais vous dites que depuis quelques années, le mouvement est vraiment devenu un promoteur très actif du modèle de l'agroécologie. Alors comment est-ce que on s'y prend dans Via Campesina pour diffuser ces modes de culture alternatives? Concrètement, comment on convertit les paysans du monde à l'agroécologie?
Effectivement, au départ, comme vous l'avez dit, c'est surtout un reproche à l'égard d'un système économique, d'une gestion néolibérale de l'économie et tous ses impacts sur l'agriculture. Et puis progressivement, au début des années 2000, c'est réfléchir au modèle de production et aussi d'essayer de travailler dans les fermes elles-mêmes pour promouvoir un modèle, vous en avez parlé avec vos invités, plus créant moins de dépendance aux paysans. Donc ça passe par des ateliers, des transmissions de ces savoir-faire agroécologiques qui sont partagés de manière internationale et qui essaient d'être transmis au sein des différentes organisations membres du mouvement.
Delphine Tivet, la liaison n'est pas très très bonne. Alors peut-être qu'on va essayer de rétablir une nouvelle liaison pour que ça soit un peu meilleur. Sylvie Brunel, l'importance de se regrouper de la sorte et de monter des mouvements internationaux, transnationaux, est-ce que ça vous semble décisif? Est-ce que vraiment c'est un passage obligé pour opérer cette transition indispensable pour les agricultures du monde? On parlait de l'Afrique, mais pas seulement.
En fait, l'agriculteur dans le monde, le paysan, l'agriculteur dans le monde entier a toujours souffert d'un manque de reconnaissance. Un agriculteur seul, c'est un agriculteur spolié. Et il y a toujours eu ce paradoxe de gouvernement qui avait à la fois très peur des jacqueries paysannes, de la révolte des paysans, mais qui la résolvait en les tenant à distance. Aujourd'hui, c'est en important ou en ne tenant pas compte de leurs aspirations, en les considérant comme des non-consommateurs, des gens qui sont dans les campagnes. Donc, s'ils ne se regroupent pas, s'ils ne font pas entendre leur voix, et l'ère des réseaux dans lesquels nous sommes arrivés depuis l'avènement d'Internet permet justement à tous ces agriculteurs du monde de faire entendre leur voix en disant « Nous comptons, attention, il va falloir sauver le monde de demain. » Le monde de demain, même si on parle de la dématérialisation de l'économie, eh bien, le premier de nos besoins, c'est de nous nourrir. On ne peut pas avoir une agriculture sans agriculteurs. L'agriculture, c'est aussi des services écosystémiques, des gens dans les campagnes, des campagnes vivantes. Et on a besoin d'entendre la voix de ces agriculteurs, aussi bien français que latino-américains, qu'asiatiques, qu'africains. Donc c'est très important que ces mouvements existent. Après, moi, je n'opposerai pas une agriculture qui serait productive, etc., et une agriculture qui serait une agriculture paysanne. Je pense que le paysan peut être justement un paysan productif, que nous allons être dans un monde d'urbains. En 2030, il y aura plus d'urbains que de ruraux en Afrique. Mais pour l'instant, il y a toujours plus de ruraux. Donc, il faut bien aussi répondre aux besoins des villes. On ne va pas renvoyer les gens à la campagne. Et donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il est en train de s'écrire une nouvelle révolution agricole où on travaille sur de nouveaux modèles, où on se dit comment passer à des écosystèmes complexes, où on arrive à la fois à satisfaire les besoins alimentaires dans la diversité tout en respectant l'environnement et en assurant la dignité du paysan. Et ce qui est terrible, Florian, c'est que en France, on a oublié ça. On a oublié aussi que nos paysans, ils sont comme les paysans africains et qu'ils ont besoin aussi de reconnaissance, de dignité et qu'il faut entendre ce qu'ils ont à nous dire.
C'est ce que vous rappeliez dans votre plaidoyer pour nos agriculteurs. Delphine Tivet, je pense qu'on vous a rappelé que la liaison est meilleure. S'agissant du poids politique de ces paysans, on entendait Sylvie Brunel à l'instant, mais j'allais dire intrinsèquement, cette Via Campesina, c'est un mouvement de par sa nature qui est un mouvement décentralisé. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce que pour défendre sa cause, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à organiser les choses différemment et avoir un pouvoir peut-être plus concentré pour peser davantage, Delphine Tivet?
Non, le Via Campesina, effectivement, est un mouvement décentralisé, transnational, et précisément, c'est une fuite de sa diversité et de sa présence dans plusieurs pays, une force, parce qu'au contraire, c'est de représenter la diversité des agricultures paysannes et de sortir d'un modèle, justement, de révolution verte, d'un modèle d'agriculture industrielle standardisée, d'un modèle, finalement, qui est au contraire homogénéisé.
J'entends bien, mais pour peser dans les arènes internationales, si vous n'avez pas un chef qui représente là en l'occurrence les 200 millions de paysans qui adhèrent à ce mouvement, vous ne pesez pas.
Alors il y a un siège tournant qui en ce moment est basé
au Zimbabwe,
à Harare au Zimbabwe. Ouais. Donc il y a une représentante, ce qu'ils appellent une secrétaire internationale qui porte la voix des paysans au sein des arènes internationales, et notamment de la FAO. Donc il y a quand même une représentation unifiée, mais qui effectivement n'est pas captée par un continent particulier et qui essaie de tourner selon justement les zones géographiques et qui essaie de porter en ce moment plutôt la voix des paysans et des paysannes africaines. Dans le sens.
Sandrine Durie, peut-être rendue Duplex de Montpellier, je voudrais vous faire intervenir sur ce point-là, sur la bonne finalement organisation pour peser justement Sandrine Durie, puis ensuite je ferai intervenir Sylvie Brunel. Sandrine Durie, depuis Montpellier.
Oui, la bonne organisation pour peser, mais moi je suis un petit peu dans la même position que
Delphine TV, là, qui soutient un peu la vie en Campesina, et les organisations de l'ONU aussi. Là, récemment, moi, j'étais à Rome pour présenter un rapport qu'on a fait sur les systèmes alimentaires, où justement, on décrit les options sur le long terme, où on voit que les modèles industriels de l'agriculture arrivent à ses limites. Et on essaye de promouvoir, donc, dans ces arènes internationales, des voies alternatives, avec donc les ONG, avec la FAO aussi, qui soutient l'agroécologie. On essaye d'imaginer aussi, donc, au niveau politique, de faire du lobbying. Et puis, sur le terrain, nous, on est au quotidien dans plus d'une centaine de pays avec nos partenaires et avec des agronomes, disons, techniciens pour inventer, en fait, à partir du local, parce que les solutions, elles sont aussi et en grande partie locales, mais il faut se coordonner. Donc, on essaye de faire cet aller-retour entre le terrain, entre, en fait, des solutions très pragmatiques, effectivement, trouver des voies pour lutter contre les maladies des manguiers, voilà, et un plaidoyer au niveau international.
On va donc peut-être finir sur ce point-là, Sylvie Brunel, on arrive presque au terme de cette émission, Sylvie Brunel, sur la question précisément de la coordination. On l'entend, il y a évidemment beaucoup d'acteurs, on parlait de là de Via Campesina, on parlait de la FAO à l'instant avec Sandrine Durie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le travail de coordination entre tous ces acteurs est satisfaisant ou est-ce qu'il y a des choses à changer en urgence?
Moi, ma conviction, c'est que le monde agricole ne sera pas entendu dans sa diversité tant qu'il ne passera son temps à se critiquer mutuellement. C'est-à-dire que là, on a entendu deux fois attaquer l'agriculture industrielle. Le changement climatique libère des terres absolument considérables aux hautes latitudes où il n'y a pas de producteurs. Il y a des endroits où on a besoin d'une agriculture familiale paysanne. Il y a des endroits où on a besoin d'une agriculture qui soit au contraire extrêmement productive parce que il va falloir produire 1 milliard de tonnes de céréales en plus d'ici 2050 pour nourrir le monde. Donc, c'est idiot que les agriculteurs du monde, et c'est vrai aussi en France, tape sur la frange la plus moderne et la plus productive. Il faut au contraire, c'est celle-là
qu'il faut... On est en pleine bataille des modèles aujourd'hui. Oui, en réalité, voilà. Vous dites l'avenir, c'est une mosaïque de modèles.
Bien sûr, c'est une mosaïque de modèles. On a besoin d'agroécologie, on a besoin de permaculture, mais on a aussi besoin de modèles agricoles extrêmement performants. Et puis, il y a des endroits où il n'y a plus personne. Donc, il faut faire attention. Cet agriculteur, on a besoin de lui dans sa diversité, mais il faut aussi qu'il comprenne que ce n'est pas en tapant sur les voisins qu'il va se hisser.
Oui, mais l'agriculture familiale peut être très productive.
Sandrine Durie.
Et c'est le cas en France en particulier.
Donc, tout à fait. L'agriculture familiale est très productive, mais elle est insérée aussi dans des systèmes de transformation agroalimentaire qui sont nécessaires aussi pour la valoriser.
Et l'agroécologie peut être aussi très productive. En tous les cas, c'est ce à quoi on travaille.
Bien sûr. Mais n'en faisons pas un modèle unique.
Ce qu'il faut absolument...
Rapidement, on arrive vraiment au terme de l'émission.
Voilà. Ce contre quoi on se bat, en fait, c'est l'usage excessif des intrants chimiques qui détériorent, en fait, la biodiversité. On est face à des risques majeurs actuellement. Et aussi à la confiscation du pouvoir par les systèmes agro-industriels.
Voilà, produire et protéger en respectant l'agriculteur.
Et ben voilà, je pense que c'est un bon mot de la fin. Et l'environnement.
Et l'environnement, oui, bien sûr.
Voilà. There is your dignity, Ethiopian, where is your pride? Don't sit down in the ghetto and suffer. You man, where is your dignity?
Merci beaucoup à nos invités, Sylvie Brunel d'avoir été avec nous ici, Sandrine Durie en duplex de Montpellier. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Sylvie Brunel, je rappellerai notamment Nourrir le monde, c'était chez Larousse, c'était il y a un moment. Hein. L'Afrique est-elle si bien partie? Le plus récent, c'était Plaidoyer pour nos agriculteurs chez Bûcher-Castel. On mettra évidemment tout ça sur la page de Culture Monde. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Un article récemment paru dans la New York Review of Books donne des clés pour comprendre le désenchantement de l'Europe centrale, Brice.
Oui, et il est signé Timothy Garton Ash. Universitaire, essayiste, journaliste britannique, Garton Ash a été l'un des très rares intellectuels ouest-européens à s'intéresser aux dissidents d'Europe centrale tout au long des années 80. Toléré en tant que jeune chercheur en Allemagne de l'Est, puis en Pologne, très présent en Tchécoslovaquie, il témoignait avec humour et intelligence dans la presse anglo-saxonne de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Et son livre, La Chaudière, Europe centrale 1980-1990, constitue l'une des meilleures analyses des fameuses révolutions de velours anticommunistes des années de l'année 1989. Ami de la plupart des dissidents, il a vécu ces bouleversements historiques à leur côté. Et honnêtement, c'est surtout pour assister à son fameux séminaire que j'ai personnellement candidaté à une bourse du St. Anthony's College d'Oxford en 1992 et finalement j'y suis resté 3 ans. Or, l'analyse qu'il donne dans la New York Review of Books sous le titre « Time for a New Liberation » est à la fois inquiétante et prometteuse. Lors du 10e anniversaire de la fin des régimes communistes, dit-il, les gens étaient soulagés et pleins d'espoir. Lors du 20e anniversaire, ils étaient triomphants. Leur pays avait obtenu l'accession à l'OTAN, ils se sentaient donc en sécurité, et à l'Union européenne, ils faisaient partie du club, ils accédaient au grand marché et au crédit. Aujourd'hui, on se demande, qu'est-ce qui a raté ? Les problèmes d'aujourd'hui ont souvent leurs racines dans les triomphes d'hier, écrit Garton Ash. Débarrassés de leurs entraves, les Européens de l'Est ou du Centre ont gagné les libertés individuelles qui nous semblent à nous normales. D'un seul coup, ils pouvaient choisir leur travail, leur lieu de résidence, leur lecture. Beaucoup de jeunes ont choisi de venir étudier à Oxford. Et Garton Ash s'en réjouit, bien sûr, mais il avoue aussi rencontrer plus souvent ses anciens étudiants à Londres, Berlin, Vienne ou Paris que dans leur pays de naissance. L'émigration, on l'a découvert grâce à Ivan Krastev, a dépeuplé littéralement certaines nations. 27% des Lettons ont émigré à l'Ouest. 21% des Bulgares. 3 millions de Roumains. Même hémorragie d'ailleurs dans l'ancienne RDA, et c'est paradoxal. Sur 16 600 000 habitants lors de la chute du mur, près de 2 millions d'anciens citoyens de la RDA ont choisi de s'installer dans l'un des Länder de l'ancienne Allemagne fédérale.
Mais Brice, c'est surtout la manière dont ont été menées les privatisations qui a exaspéré nombre de citoyens des ex-démocraties populaires.
Oui, restituer leurs propriétés aux familles dépossédées n'était pas facile. Mais vendre d'anciennes entreprises d'État à des capitalistes étrangers a été source de frustration. Les perdants de la transition ont le sentiment qu'en 1989, les élites communistes et celles qui aspiraient à les remplacer, se sont entendus pour se servir. Les oligarques d'aujourd'hui, en possession d'immenses fortunes, ont trop souvent démarré leurs petites affaires ou leurs grosses affaires grâce à leur réseau de relations dans les hautes sphères de l'ancien régime. Andrei Babis, le chef milliardaire du gouvernement tchèque, est l'incarnation de ces magouilles. Mais il n'était vraiment pas facile, fait d'observer Garton Ash, de passer d'un système socialiste et collectiviste à un régime de propriété privée et d'état de droit. Une blague souvent entendue après 1989 en Europe centrale en témoigne. Je vous la livre. Nous avons appris avec les communistes comment on transforme un aquarium en soupe de poisson. Mais à présent, il nous faut trouver la formule qui permet de repeupler l'aquarium avec les poissons de la soupe. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le fond du problème social dans les pays d'Europe centrale, on le sait, c'est la coupure qui s'est produite entre les élites urbaines tournées vers l'Ouest, émancipées, libérales et cosmopolites, et puis le peuple des campagnes et des petites villes. Là-bas, on souffre du mépris de ce qu'on appelle les salons de Varsovie, de la Praska Kavarna, la société, la Café Society pragoise. En Hongrie, le divorce est flagrant entre Budapest, qui vient d'élire un maire de centre-gauche, et puis le peuple de la Pusta, fidèle à Orban. Dans les Länder allemands de l'Est eux-mêmes, les gens reconnaissent que leur niveau de vie s'est incroyablement amélioré, mais ils se sentent méprisés par les aussi, et c'est pourquoi ils votent pour l'AFD. Les partis populistes, comme le PiS polonais ou le Fidesz hongrois, misent sur ces frustrations et se présentent comme les partis qui vont rendre au peuple sa dignité et sa souveraineté. Ils exploitent aussi l'image de l'Occident multiculturaliste et décadent. Les Européens de l'Ouest importent des immigrés parce qu'ils ne sont plus capables de faire des enfants, y entend-on, c'est notamment ce que dit Orban. D'une manière générale, l'Occident, regardé comme un modèle dans les années 80 et 90, fait beaucoup moins rêver depuis la crise de 2008. Les régimes autoritaires qui se posent en protecteurs de l'identité nationale ont, par contre, le vent en poupe.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.